Cette fête de la Trinité, qui revient donc chaque année, 8 jours après la fête de Pentecôte, est toujours une fête un peu surprenante, parce que, comme vous le savez, à chaque fois qu'on fait une fête dans l'Église, même le dimanche, la fête du dimanche du temps ordinaire, mais aussi toutes les fêtes que l'on regarde, qu'on en fait la Pentecôte, l'Ascension, la Résurrection, la Passion du Seigneur, etc., c'est toujours des événements qui ont eu lieu dans l'histoire, passé, hein, qui est les événements de la vie de Jésus en fait, c'est toujours ces événements-là, ou de l'Église primitive, de l'Église naissante à travers la Pentecôte, qui nous sont rendus présents, comme si on nous y étions, hein, pour que nous puissions vivre ces événements nous-mêmes et en être nourris et que nous puissions cheminer en chrétiens. Et cette fête est l'unique fête, si vous regardez bien dans le calendrier liturgique, dans l'année liturgique, c'est l'unique fête où on ne fête pas un événement. C'est une fête où on regarde, on contemple un mystère. Mais en fait, ce mystère, eh bien, il nous est révélé par tous les événements passés que nous relate l'Écriture sainte, la parole de Dieu, la Bible. Tous les événements nous mènent à ce dévoilement de Dieu qui se présente comme Trinité sainte. On ne pouvait pas l'inventer. C'est clair, ce mystère de la Trinité, nous ne pouvions pas l'inventer. Et il nous faut encore aujourd'hui le contempler et bien le comprendre. Alors c'est intéressant aussi, les lectures que nous venons d'entendre dans cette Eucharistie nous font un peu faire ce cheminement, en partie en tout cas. Dans la première lecture, nous entendons bien la première révélation de Dieu auprès de Moïse qui se révèle comme le Dieu unique. Hein, il se révèle comme « Mon nom est le Seigneur ». Alors, sachez que le terme, d'ailleurs dans la parole de Dieu, c'est écrit « le Seigneur » en grosses lettres. Le terme, ce n'est pas « le Seigneur ». C'est ce qu'on appelle le tétragramme, un nom imprononçable. C'est 4 lettres hébraïques qui sont mises l'une à côté de l'autre, qui sont imprononçables, qu'on ne prononce pas. Parce que Dieu est trop grand pour qu'on le renferme sous un prénom. Nous, quand on nous appelle, ben, on se reconnaît, mais Dieu, il est trop grand. Hein. De lui donner un prénom, ça voudrait dire le diminuer à une taille, faire de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire on le diminue à une taille humaine, à notre taille, à une capacité. Et comme Dieu est trop grand, eh bien, il ne peut pas, nous ne pouvons pas prononcer son nom. Donc, il proclama son nom, est le tétragramme, le Seigneur, et donc on traduit toujours par le Seigneur, Adonai en hébreu, le Seigneur en français, et donc voilà comment il se révèle. Il se révèle comme ce Dieu très grand, enfin très grand, qui nous dépasse, ce Dieu unique, avec un nom imprononçable, parce que l'on ne peut pas le renfermer, on ne peut pas le mettre en boîte, on ne peut pas le saisir totalement. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, donc c'est le tétragramme, son prénom, il prononce son prénom, c'est Dieu lui-même, hein. Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Donc Moïse prend conscience de cette présence divine, unique, cette révélation, cette première révélation d'un Dieu unique. Et donc c'est à partir de ce moment-là que va commencer l'aventure du peuple juif. Parce qu'avant, avec Abraham, avec Noé, tout ça, on est dans la période d'avant encore, hein, d'une préparation d'un Dieu qui commence, qui s'occupe des hommes parce qu'il voit que ça ne va pas bien. Hein, il suffit de se rappeler l'épisode de Noé. Mais là, carrément, Dieu vient, choisit Moïse, et Moïse va être le guide d'un peuple, et Moïse va dialoguer avec Dieu, on dit face à face, ce qui est tout à fait, en théorie, impossible, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, selon la première alliance. Parce que, voilà, et cette réalité de révélation divine reste une réalité toujours actuelle. C'est-à-dire que Dieu est grand, il est unique, il nous dépasse. Et on peut dire, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Alors, il suffit de penser que nous, de fait, on verra Dieu à notre mort. Hein. Mais voilà. Alors après, ça va être complété par la suite. Mais là, je fais la première étape. Et la première étape est très importante parce que ensuite, souvenons-nous du peuple dans le désert, tout ce qui va se passer, même dans l'histoire du peuple juif à la terre promise. Eh bien, toujours. Il va y avoir les prophètes, etc., les interventions de Dieu. Dieu va continuer à intervenir dans leur histoire, toujours pour leur dire « Attention, attention, vous choisissez de faux dieux. Vous choisissez des idoles. Vous vous tournez vers d'autres dieux. Alors il suffit, dans le désert, souvenez-vous du veau d'or, hein, qui symbolise un peu toutes les idolâtries possibles, qui est fait en or avec les bijoux des gens. Hein, et Jésus, si on se souvient, Jésus, la seule chose qu'il dénonce, il dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Ça montre que la première idole, c'est l'argent. On pourrait dire aussi chez nous maintenant, je pense ne pas exagérer en disant, on pourrait dire la première idole, c'est le matérialisme. C'est le fait de vivre uniquement avec ce souci d'avoir un confort matériel, comme si c'était ça qui faisait tout, et comme si c'était ça qu'il fallait adorer. Et le Seigneur, nous dit non. Bien sûr, l'argent est utile. Hein, il est nécessaire. Et ceux qui n'en ont pas, il faut les aider. Mais ce n'est un serviteur, ce n'est pas un maître, ce n'est pas un Dieu. Et toujours dans l'Ancien Testament, il va y avoir cette dénonciation permanente des faux dieux. Et ça, c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Donc la première chose, c'est de se dire, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Dieu unique, un seul Dieu qui se révèle à nous, qui nous dépasse, mais qui veut quand même rentrer en dialogue avec nous. La deuxième chose, c'est que nous construisons régulièrement des idoles, et c'est bien, et même comme on tenait prêtre, hein, c'est bien toujours de se demander, qu'est-ce que j'adore ? Quelle est mon idole ? Hein, il y en a certains, c'est Johnny. Non, je blague. Hein. Donc, il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a le bien-être, etc. Enfin, on peut tous... Il suffit de se dire, qu'est-ce qui me préoccupe le plus ? Et déjà, ça donne des petites pistes. Et voilà. Et puis, toujours, c'est la première chose, rechoisir notre Dieu. Parce que, comme le dit Saint Paul, vous l'avez entendu dans l'Épître, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand Dieu est là, quand Dieu est servi pour lui-même, comme quand il est l'unique Dieu de nos vies ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est la joie. Marqué, c'est le premier effet, c'est la joie. Soyez dans la joie. Parce que vous adorez Dieu, parce que vous aimez Dieu. Hein, quand on dit adorer, aimer, vous savez, ça se rapproche tout ça. Voilà. Deuxième étape, c'est le mystère de la Trinité. Déjà, donc, nous avons un Dieu, nous sommes monothéistes. Hein, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans l'islam, ce qu'on reproche aux christianistes, c'est d'être polythéistes. Hein, il y a beaucoup, et puis même certains juifs reprochent aussi cela, parce que ce n'est pas bien compris. Donc nous sommes des monothéismes radicaux, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas adorer d'autres dieux que le Dieu unique. On ne veut pas aimer d'autres dieux que le Dieu unique. Mais seulement, voilà ce qui s'est passé. C'est que Dieu va venir tellement près de nous, vraiment à notre secours, qu'il va se révéler dans ce qu'il est intérieurement, on va dire. Et donc, son fils, il va se révéler. On va découvrir que Dieu a un fils. Le Père envoie son fils. C'est ce que nous dit l'Évangile. Le Père envoie son fils. Voilà que Dieu est Père et Fils. Et puis, je fais rapidement, mais c'est tout ce qu'on a vécu depuis Pâques. Et puis voilà que quand Jésus dit « Il faut que je parte au ciel », on dit « Mais pourquoi ne faut-tu pas ? C'était très bien avec nous, ressusciter avec nous, c'est super. » Non, il est bon que je m'en aille parce que je vais vous envoyer le paraclet, l'Esprit Saint. Ah bon ? Et voilà que Jésus, le Verbe, le Fils, nous parle du Père et nous dit qu'il envoie le paraclet, l'Esprit, l'Esprit Saint. Il souffle sur eux et le donne l'Esprit Saint, ou bien à la Pentecôte. L'Esprit vient sur eux, alors l'Esprit Saint, il se révèle, mais il ne s'incarne pas, il ne prend pas la chair comme Jésus l'a fait, comme le Verbe, comme le Fils. Le Fils, il prend chair dans la sein de la Vierge Marie, mais non, l'Esprit Saint, lui, c'est un souffle, ou c'est un feu, c'est ce qu'on a vu à Pentecôte, et qui se pose. Et voilà que on découvre une troisième personne, et on découvre que c'est que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, eh bien, c'est le Dieu unique que nous vénérons, que nous honorons, que nous aimons. Eh bien, voilà qu'il est Trinité. Alors, on creuse la question, mais pourquoi est-il Trinité ? Alors, l'Église l'a fait très vite, hein, puisqu'on voit déjà, dans l'Épître de Saint Paul, hein, où il est dit, il y a une formule trinitaire, hein, très claire, que le Dieu d'amour et de paix, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, sous-entendu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit avec vous. Ce qu'on dit parfois à la messe au début, formule trinitaire. On retrouve d'autres formules trinitaires. Quand Jésus va, va dire « Allez, toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et puis, on va aussi trouver en d'autres lieux. Mais pourquoi finalement Dieu est Trinité ? On va se demander pourquoi Dieu est Trinité. Très vite, l'Église va comprendre, puisque c'est écrit aussi dans l'Écriture, hein, dans l'épître de Saint Jean. Eh bien, cette belle épître qu'il faut lire, parce qu'elle nous met dans la joie. Dieu est amour. L'explication de tout, c'est que le Dieu unique qui se révèle à nous, c'est un Dieu d'amour. Et comme c'est un Dieu d'amour, l'amour se donne. Un amour qui ne se donne pas, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de l'amour. Un amour vrai, et comme Dieu est vrai, on ne peut pas nous tromper, c'est le vrai amour, c'est un amour qui se donne. Et donc, il y a cette génération, hein, ce qu'on appelle en théologie, cette génération d'amour entre le Père, le Fils, et avec une telle intensité que cet amour échangé entre le Père et le Fils, c'est une troisième personne, le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on a compris que parce que Dieu est amour, il est Trinité. Et parce que Dieu est amour, il nous crée. Parce que Dieu est amour, il nous crée libres. Parce que Dieu est amour, donc on peut pécher. Parce que Dieu est amour, il y a eu le péché, malheureusement. Et parce que Dieu est amour, il est venu nous sauver. Parce que Dieu est amour, il est avec nous aujourd'hui. Parce que Dieu est amour, il nous donne l'Eucharistie et les sacrements. Parce que Dieu est amour, il nous promet le ciel. Parce que Dieu est amour, il veut nous emmener au ciel. Parce que Dieu est amour, il nous révèle qui il est intérieurement, autrement dit, sa Trinité Sainte. Le moteur de la démarche divine vis-à-vis de nous, pour qu'on existe, pour qu'on est sauvé, pour qu'on va au ciel, c'est l'amour. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui subsiste au ciel ? La charité, autrement dit l'amour. Voilà, demandons donc à Dieu d'aimer ce Dieu unique, trinitaire, qui se révèle comme un Dieu d'amour, qui vient nous chercher, qui est avec nous, qui vit en nous, hein, par le baptême, le Saint-Esprit représente la Trinité dans nos cœurs. Hein. Voilà, demandons au Seigneur de contempler ce mystère merveilleux de Dieu amour et puissions-nous en témoigner autour de nous. Car comme vous le savez, hier, il y a eu les quatre baptêmes d'adultes. Témoignons autour de nous de cet amour parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cela et quand ils rencontrent, ils demandent de devenir eux aussi chrétiens parce qu'ils sont heureux de se tourner vers ce Dieu d'amour qui sauve. Amen.